Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le voyage que nous racontons aujourd'hui a lieu le dimanche 17 février 2019. Il commence à 5h du matin à Roissy et s'achève à 23h au même endroit. 145 femmes y participent, seulement des femmes. Elles appartiennent à plusieurs générations, elles viennent de villes et de quartiers différents, d'origines, de religions et de milieux plus divers encore. Certaines sont chefs d'entreprise, avocates, réalisatrices, d'autres exercent des professions moins valorisées comme femmes de ménage, dames de cantine et vivent dans des quartiers carrément défavorisés. Elles sont de culture ou de religion juive, musulmane, catholique, athée. L'histoire ne dit pas s'il y a des protestantes ni des bouddhistes. C'est le deuxième voyage de ce genre à Auschwitz, organisé par l'association Langage de Femmes, créée par Samia Essaba, qui est prof d'anglais au lycée Théodore Monod à Noisy-le-Sec, et par Suzanne Nakache, une ancienne pharmacienne, à Paris. Visiter un tel lieu de mémoire, avec leurs différences et leurs expériences, c'est dans l'espoir qu'il y aura un dialogue, un échange, un partage. Dans l'idée que celles qui savent transmettront à celles qui en savent moins, qui transmettront à d'autres, qui à leur tour diront ce qu'elles ont vu et entendu. Lutter contre l'oubli et contre l'antisémitisme, transmettre la mémoire de la Shoah par le dialogue, mais aussi à travers la stupeur, l'effroi, l'horreur qui saisissent ceux et celles qui visitent ce lieu de mémoire. Vivre ensemble ce moment et revenir ensemble différentes. Surtout quand parmi ces femmes, l'une d'elles est une mémoire vivante. Un des derniers grands témoins de la Shoah. Elle s'appelle Ginette Kolinka. Elle a été arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit frère et son neveu, puis déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle sera la seule de sa famille à en revenir, mais elle restera toute sa vie liée à deux jeunes filles qui se trouvent dans le même convoi qu'elle, Simone Veil et la future Marceline Loridan-Ivens. Un livre qui raconte son histoire, d'ailleurs celle de Ginette Kolinka, paraîtra demain chez Grasset sous le titre « Retour à Birkenau ». Tout de suite donc, pour elle au pluriel, un voyage dans la mémoire et le présent, entièrement genré, et des réponses peut-être à la question de savoir pourquoi il n'y a que des femmes et ce que ça change. Aujourd'hui et demain, « Langage de femmes » par Alice Milo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Allez, allez, on y va, on y va. Groupe 1. Groupe 1.
N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes ou intelligentes. Il y a des questions avec ou sans réponse. La journée va être longue.
Samia.
Cette cérémonie en hommage... aux victimes d'Auschwitz va débuter. La présidente de l'association Langage de Femmes, Samia Essaba, s'adresse à vous.
Ce qui s'est passé ici n'appartient pas seulement à l'histoire des Juifs, mais est partie intégrante de l'histoire de toute l'humanité. Depuis quelque temps, ces dernières semaines, nous pouvons constater une montée en puissance d'actes antisémites dans notre pays. Langage de Femmes assume sa mission et encourage toutes les femmes à suivre ses pas. Grâce à ce voyage, nous devons comprendre que nous avons tout un rôle extrêmement important à jouer. Être des résistantes et faire obstacle à ces graves agissements qui ébranlent les fondations de notre démocratie, qui fragilisent les valeurs de notre République.
Je suis Samia Essaba, présidente de Langage de Femmes. Une association que nous avons créée il y a un an et demi. Notre souhait, c'est de bien sûr lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais surtout de transmettre les connaissances, éduquer. Et donc aujourd'hui, nous sommes 140 femmes à visiter ensemble ce camp et essayer de comprendre. Alors bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui vont le découvrir pour la première fois et qui ne l'ont jamais étudié, parce que nous avons des femmes qui ne savent pas lire ni écrire, qui ne sont pas allées à l'école. On a des femmes qui ont étudié dans leur pays d'origine et qui n'ont pas abordé ces chapitres d'histoire. Et je pense que c'est important que toutes ces femmes-là se retrouvent en une seule communauté, pour pouvoir découvrir ensemble. Alors celles qui comprennent mieux expliqueront tranquillement après aux autres. Parfois on peut traduire aussi en arabe, en berbère, mais voilà, on traduit et c'est très bien comme ça. Moi-même, j'ai grandi dans une cité où on était tous mélangés, avec des familles juives, des familles maghrébines, des familles espagnoles, portugaises, etc. À Gagny, en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai grandi vraiment très heureuse dans cet environnement-là. Et puis ensuite, j'ai décidé de devenir enseignante parce que l'école m'a beaucoup apporté et que je voulais rendre à l'école ce qu'elle m'a donné. Et le déclic, c'est le 11 septembre 2001. Tout simplement, lorsqu'on a débriefé le lendemain de ce drame avec les élèves à la demande de notre proviseur, je me suis rendu compte que les nouvelles générations tenaient des propos et des préjugés racistes et antisémites à tout va, sans même avoir l'idéologie. Hein, c'est vraiment rapporter des propos. Par exemple, dire écoutez, moi ça me fait pas grand chose parce que je sais que dans les deux tours il y avait des juifs, etc. Bon, là j'ai dit non, stop, il faut faire quelque chose. Il faut travailler, il faut éduquer, il faut guider. Et voilà, on a fait le maximum. Donc j'ai commencé en 2004 à organiser un voyage à Auschwitz et puis ensuite j'ai enchaîné. Voilà. Et ensuite, après Auschwitz, je me suis engagée également dans les autres mémoires. J'ai beaucoup travaillé sur les tirailleurs africains. J'ai beaucoup travaillé sur les compagnons de la libération d'armées maghrébines et africaines. La mémoire de l'esclavage. Également la cohabitation judéo-arabe dans les pays arabes. Parce que beaucoup de mes élèves ignoraient qu'il y avait des juifs dans leur pays d'origine. Donc là, il fallait aussi faire un travail là-dessus. Voilà, je l'ai souvent entendu, mes élèves qui disaient « Oui, mais l'esclavage, c'est plus important
que
la Shoah. » Mais ça, c'est parce qu'il fallait travailler dessus pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de concurrence mémorielle et quelle est la différence entre les différentes mémoires. Mais une fois qu'ils ont compris que chaque mémoire a toute sa place dans les apprentissages et dans les cérémonies, ils comprennent très bien. Et puis, ils s'approprient ensuite ces mémoires. Et ça, c'est très important. C'est très important, c'est que lorsque vous mettez les élèves dans un projet de mémoire quel qu'il soit, ils sont très impliqués, ils vont jusqu'au bout. Et j'ai envie de vous dire qu'ils deviennent, pour moi, ils deviennent des ambassadeurs de la mémoire.
Pourquoi avoir organisé un voyage exclusivement de femmes ?
Elles ont besoin d'être entre elles pour aborder certaines choses, certains sujets difficiles, sensibles. Elles ont besoin d'être entre elles pour échanger, pour poser des questions aussi. Il y a des femmes qui n'oseront pas poser de questions devant un homme. Par exemple, comment faisaient les femmes lorsqu'elles avaient leurs menstrues, sachant qu'on leur enlève tout. Elles n'ont même pas de savon pour se laver, elles ne possèdent rien, rien du tout. C'est des questions qu'on se pose entre femmes.
On avance vers les latrines.
On arrivait, on nous emmenait aux toilettes, non pas quand on en a, quand on le demandait, quand ils avaient envie de nous y emmener. Et on se retenait. Et quand c'était le moment de pouvoir se satisfaire, c'était dégoûtant. Dans une salle qui sentait mauvais, on est assise, on a les fesses à l'air, on a des fesses sales parce qu'on ne se lavait pas. Et maintenant, cherchez là un petit bout de papier, cherchez un petit bout de chiffon, vous n'en trouverez pas. On avait pendant des mois et des mois et des mois, même pas un petit confetti, même pas le moindre petit bout de chiffon pour s'essuyer. Maintenant, souvent, on n'avait pas de culotte. Et beaucoup de souvent, on avait aussi la dysenterie. Vous voyez le tableau ? Moi, je le vois. C'était comme ça que j'étais. Crasseuse, dégoûtante, sale. Mais on ne s'en rendait même pas compte. C'est maintenant que j'en parle, parce qu'on ne vivait que dans la crasse et que dans la saleté. C'était dégoûtant. Alors je suis arrivée le 16 avril 1944 et j'ai quitté Birkenau en novembre 1945. Moi, pour moi, ça a été le moment le pire, là. c'est quand on est arrivé et qu'on nous a mis nus. Me demandez même pas si j'ai pensé à quoi que ce soit. Est-ce que quand on m'a tatoué, ça m'a fait quelque chose? Mais non, parce que j'étais tellement gênée d'être nue que c'est ça qui a été le plus fort pour moi. Tout ce qui est passé après, ça a été rien à côté de la nudité. Comment vous seriez-vous si on vous obligeait à vous mettre nue devant des gens que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous acceptez comme ça ou est-ce que vous êtes comme moi, malade de honte? En tous les cas, moi j'étais une petite jeune fille. Pour moi, la nudité, ça a été affreux. Et quand elle nous rasait, vous les voyez, on vous rase le sexe. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous avez quelqu'un qui vous rase le sexe. C'est affreux, affreux quand vous êtes pudique. Quand on vous enlève vos cheveux, ça c'est vexant parce que vous avez des beaux cheveux, ça vous embête. Mais quand vous êtes pudique et qu'on vous enlève les poils du sexe, c'est affreux. Moi, au début, quand je commençais à parler de ça, j'avais encore le rouge de la honte. Je m'y voyais encore. Maintenant, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, maintenant, je vais vous dire franchement, je vais dans une salle de sport. Maintenant, je suis toute nue, je m'en fous complètement. Je vois qu'il y a encore des belles petites jeunes filles qui se cachent encore un peu. Moi, je suis vieille avec un vieux corps. Je m'en fous. Et ça me fait rire. Parce que je pense que quand j'étais jeune, j'étais tellement pudique. C'est amusant de penser comment qu'on change. Hein. Mais là, dans le camp, j'ai changé en quelques heures. Hein. De la nudité qui me faisait rendre malade. Après, quelques heures après, c'était fini. Hein. Je m'en foutais complètement. J'ai été transformée entre Ginette, qui était pudique, Ginette, qui était comme ci, Ginette, qui était comme ça, à une autre personne qui n'était plus moi.
Dans cette partie, les hommes, de l'autre côté, les femmes. Ok ? Et si vous avez des photos ici, donc des sources, c'est bien parce que cet univers concentrationnaire n'avait pas à être spécialement caché. Alors, ici, vous êtes dans une zone marécageuse, de la boue partout. Et nous allons circuler dans cet univers concentrationnaire, ce que ne pouvaient évidemment pas faire, les déportés.
Et vous vous imaginez ces marches, si elles pouvaient parler, tout ce qu'elles ont vu.
C'est aussi une question d'éducation. C'est pour ça que nous, Langage de Femmes, s'implique énormément pour travailler avec les femmes, parce qu'il faut que les femmes transmettent. Que les mères soient averties et maîtrisent cette connaissance pour qu'elles puissent relayer à la maison. Moi, je pense que c'est important. Moi, je rencontre des mères qui me disent « Mais écoute, nos enfants, ils étudient ça, mais moi, j'ai pas leur niveau et je peux pas aider. » Et souvent, on me dit « Tu connais rien. » Donc, c'est là où je me dis « Bon, voilà, Langage de Femmes a un rôle là-dedans. » Pour aider ces femmes à ne plus se sentir démunies devant leurs enfants sous prétexte qu'elles ne maîtrisent pas cette connaissance. C'est important.
L'idée, c'est que si un enfant a un propos qui dérape à la maison, la maman est en capacité de dire « Écoute, moi j'ai été à Auschwitz, moi j'ai vu, moi je sais. »
Absolument.
Tu ne peux pas tenir des propos négationnistes.
Absolument. Tout à fait.
Donc c'est pour vous, ça, c'est une solution.
C'est important, bien sûr. Et puis, elle est convaincante. Elle va dire « Écoute, c'est pas possible. Ce que tu dis, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu. Donc, voilà. Il faut vraiment qu'on se réveille, là. On n'arrête pas de dire « Oh là là, ce qui s'est passé, plus jamais. » Mais regardez, les gens facilement prennent un feutre, la peinture. Et j'imagine même pas les gens qui ont vécu tout ça et qui revoient tous ces tags et ces graffitis. Mais ils doivent se dire « Mais c'est pas possible. On a déjà vécu ça. Il faut que ça recommence. » C'est pas possible.
Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, être ici ensemble à Auschwitz, pour vous, c'est suffisant?
Non, c'est pas suffisant. Il faut qu'après cette visite, on continue à travailler avec ces mêmes femmes et encore avec d'autres femmes. Il y a un travail à poursuivre. Ce n'est jamais terminé et jamais acquis.
Qui voit Ginette? Ginette, elle est où?
Alors ici, normalement, je devrais m'écrouler parce que c'est le dernier endroit où j'ai vu mon père, mon frère et mon neveu, à cet endroit-là, pour la dernière fois.
Et quand vous êtes retournée après,
La première fois que je suis revenue, je croyais m'écrouler.
Oui.
En fin de compte, pas du tout. Rien n'est ce que les déportés ont vu. Tout a été refait, tout a été nettoyé. Tout est propre, tout est beau. Moi, quand je suis avec les personnes, je leur dis, fermez les yeux, écoutez-moi. Là, et là, et là, et là, et là, et les maisons qui sont si belles, et ben c'était, nous, on n'a pas vu tout ça. C'est honteux de dire ça, mais Birkenau, c'est beau maintenant. Vous avez de l'herbe, vous avez des arbres. Maintenant, cette saison, vous avez des biches qui traversent, vous avez des lièvres, vous avez des oiseaux. On n'a jamais vu ça. Et même nous, quand on voit ça, on dit, mais c'est pas possible, c'était pas comme ça.
On est venu pour rendre hommage aux gens de ce qui est passé ici, de voir avec nos yeux et entendre l'histoire. Je n'y cite, je ne savais pas ce que c'est. On savait qu'il y a eu pas mal de juifs qui étaient morts, mais on ne savait pas tout ça, ce que je viens de prendre aujourd'hui et dimanche dernier. Puis surtout qu'on entend une vraie personne qui a vécu ça et qui le raconte en détail comme c'était le jour même, c'était vraiment émouvant et que ça nous a choqués puis que ça nous fait mal au cœur. J'ai pas pris ça à l'école. Moi, j'ai grandi à Casablanca. Je suis allée à l'école jusqu'à CM2. Après, j'arrivais plus à continuer, donc je voulais plus que mes parents dépensent d'acheter les livres. Donc, j'ai arrêté et je suis rentrée ici en France en 78. Et on continue à aller dans les petites missions comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris pas mal de trucs en sortant au musée à visiter, à travers les musées, en regardant l'histoire et tout ça, on apprenait tout ça. Et on ne sait pas maintenant, on cherche toujours la réponse. Pourquoi? Pourquoi tous ces massacres? Pourquoi?
Dans la salle qui va suivre, donc vous ne prenez pas de photos s'il vous plaît, et nous parlerons, si vous le voulez bien, à la sortie de cette salle.
Oui, là, on est rentré dans une pièce en fait où sont exposés les cheveux de toutes les personnes qui ont été déportées en fait jusqu'à maintenant au camp. Et c'est oui, j'ai eu du mal à rentrer. J'ai même pas de mots en fait. J'ai pas de mots du tout.
Vous allez rentrer différente ce soir à Paris?
Clairement, je pense même pas que je vais dormir tout de suite, le temps de digérer ce que j'ai vu et d'en parler aussi. Mais ça change une personne.
Et je pense pas en fait que notre génération, elle se rende compte en fait de ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, je me rends compte actuellement en fait réellement de ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai 20 ans. J'ai appris cette histoire quand j'étais au collège. Enfin voilà.
En fait, on avait fait un projet toujours avec Madame Essaba, avec des collégiens et des lycéens de seconde. Et il y avait des ados qui soit n'étaient pas au courant ou soit n'y croyaient pas en fait parce que voilà. C'était pas vrai que la société elle inventait tout ça pour protéger en fait les personnes juives, qu'ils étaient riches, qu'en fait ils contrôlaient le monde, ils contrôlaient la société, ils contrôlaient la télévision, que la société les protégeait trop, ils avaient l'impression d'être abaissés par eux, or qu'en fait tout ça c'est dans la tête en fait.
C'est tout le processus qui a fait ce que dit Ginette depuis ce matin, la haine qu'on a laissé monter, qu'il faut interroger par rapport à ce qui s'est passé ici.
C'est la première fois que je viens ici.
Comment vous êtes retrouvée à participer à ce voyage?
C'est parce que j'ai travaillé dans un lycée avec Madame Essaba.
La présidente de la fondation.
Voilà. J'étais agent d'entretien seulement. Et comme elle est professeure, elle fait participer tout le monde. On ne pensait pas, on n'imaginait pas que c'était des hommes pouvaient faire ça aux hommes, aux humains, enfin.
Nous, on a eu l'esclavage.
L'esclavage chez nous, voilà.
Oui, aux Antilles. Bon, on sait bien d'où on sort.
Parce que, donc vous aussi, vous travaillez
ensemble. Je travaille aussi au lycée. Et je suis aussi agent d'entretien. Et ce jour-là, je suis qu'il y avait cette sortie. Je me suis dit, ben non, il faut que j'aille. J'ai pas hésité parce que j'en avais déjà entendu parler de Auschwitz. Bien sûr, si je prononce bien. Et j'ai voulu quand même connaître de moi-même, de voir, pour pouvoir ensuite discuter, voilà, avec surtout les jeunes, parce que nous, on côtoie les jeunes régulièrement au lycée. Parce que des fois, ils font des tags, des trucs comme ça, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent même pas ce qu'ils font, peut-être, je dis peut-être. Il y en a qui le savent peut-être aussi. Mais moi, je pense qu'en leur parlant, en leur expliquant certaines choses, ils vont peut-être arrêter de taguer. Des tags qui ont des significations pour eux. C'est quoi? C'est quoi comme tag qu'ils font, par exemple? Ils ont des périodes. Soit ils font des croix, ils font...
Des croix gammées?
Ouais. Sous les murs, partout. Bon, on les enlève tout de suite.
Donc là, on sort du musée, on se dirige vers le crématorium où il y aura une cérémonie.
Oui, on va clôturer la journée comme ça.
Vous êtes la présidente d'honneur de cette association, Langage de Femmes.
Oui, je suis Aude de Thuin, je suis aussi la fondatrice de Women's Forum, qui est un sommet mondial pour connecter les femmes avec le monde entier.
Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous a mené à vous engager dans une association de femmes qui lutte pour la mémoire, cette mémoire-là?
Je n'ai rien dans mon histoire personnelle qui m'amène à ça, c'est simplement une rencontre que j'ai faite. J'ai eu la chance d'être présentée à Samia Nessaba par Simone Veil, qui m'a dit il y a de nombreuses années, Aude, vous devriez connaître cette femme. Et voilà, j'ai décidé de l'aider, de la soutenir, parce que je sens de plus en plus une montée de ces extrêmes, une montée de l'antisémitisme, du racisme. Autour de nous, ce que je sentais il y a quelques années est en train aujourd'hui d'exploser. Là, récemment, on assiste à quelque chose d'une violence inouïe. Et donc, moi, à mon niveau, mon Dieu, ce que je fais, c'est rien. C'est essayer de soutenir depuis des années cette femme, Samia, pour qui j'ai un respect profond et beaucoup d'amour aussi, parce qu'elle s'occupe d'enfants dans des banlieues difficiles et souvent dans des familles monoparentales, et que l'éducation des garçons passe par les femmes. Moi, c'est la mobilisation des femmes que j'ai amenée ici, puisque j'ai sollicité des amis, des femmes que je connaissais, en leur disant il y a un voyage à Auschwitz, on doit soutenir des élèves du lycée et leurs mamans qui n'ont pas les moyens. Et j'ai trouvé déjà cette première mobilisation formidable. Et c'est petit à petit qu'on crée quelque chose. Et donc c'est là où, à un autre niveau, ce qu'on fait, c'est pas énorme, mais c'est nécessaire. On ne le fera pas dans la rue, on le fera autrement. Et je pense qu'on le continuera, enfin je suis sûre qu'on continuera à le faire par les femmes.
Aujourd'hui, c'est un bel exemple de mixité sociale qu'il y a à travers ce groupe. Donc il y a vos amis, au sens très large du terme, qui ont donc financé le voyage pour des femmes qui n'avaient pas les moyens de payer. C'est la rencontre entre deux mondes.
Oui, mais c'est le même monde, on vit dans le même monde. Et c'est justement ce monde qui a tort de ne pas se rencontrer. Donc moi, je facilite les choses, parce que je pense qu'il n'y a pas d'un côté du périph' et de l'autre côté. Je pense qu'il y a un monde global, qui est justement de plus en plus global, et qui aujourd'hui doit savoir se mélanger, doit savoir se parler, doit savoir se rencontrer. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, finalement.
Katia,
oui.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
J'ai allumé une bougie et je l'ai appelée une bougie de la tolérance. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je vais suivre le groupe et je vais la poser où ils vont poser leur bougie. Je ressens des trucs. C'est dur à le dire, mais moi déjà je travaille sur mes enfants. Le mot de partage, le respect, qu'il n'y aura pas de haine. J'ai déjà formé ça à mes petits lapins. Et là, je vais rentrer chez moi, je vais le raconter à mes garçons. Et je vais le raconter tous les jours. Et le jour où ils vont étudier ça, je ne vais pas arrêter. Je vais dire, là j'ai pris quelques photos, pas beaucoup. Et je vais dire à mes garçons, voilà ceci, cela, tel endroit, tel endroit.
Ils ont quel âge vos garçons?
Bientôt 9, 8, 5. Je ne suis pas juif, mais je vais le transmettre, je vais le dire. Voilà les gens, malheureusement, comment ils étaient. Ils ont croyé qu'ils vont partir travailler, mais malheureusement, c'était autre chose. C'était le camp de la mort, voilà.
Mais vous, vous avez grandi où, madame ?
En Algérie.
D'accord.
Jusqu'à l'âge de 3 ans. Je suis coiffeuse. Il faut stopper ces jeux, ces trucs-là. Il faut les stopper. Par l'éducation, voilà.
Ginette, je vous raccompagne à la voiture.
D'accord.
Ok.
J'aurais voulu dire un petit mot quand même.
Ah, bien. Pas de discours, elle me dit Ginette, montez là.
Pas de discours,
un petit mot. Montez là, que tout le monde vous voit bien.
C'est extraordinaire ce que vous faites. Parce que moi, je ne croyais pas à l'antisémitisme. Oh, en parole, j'y croyais pas. Mais nous, quand on est rentrés, on pensait plus jamais ça. Et longtemps, j'ai cru plus jamais ça. Et maintenant, ce n'est plus des paroles. Maintenant, il y a des actes. Et c'est vrai que je n'ose plus dire plus jamais ça parce que ça fait peur. Ça fait peur, mais quand on voit des groupes comme vous, par exemple, qui êtes là, en quantité quand même, vous êtes déjà pas mal, hein, eh bien alors, ça donne quand même de l'espoir. Je vous souhaite et je vous demande, parlez, parlez, parlez. Vous êtes notre mémoire et vous allez la passer à d'autres aussi. Et voilà.
C'était Langage de femmes, transmettre la mémoire de la Shoah, premier épisode d'un reportage signé Alice Mello, réalisé par Clémence Gross. Merci à Samia et Saba, à Suzanne Nakache, à Colette Cohen, à Ginette Colinka et à Sabrina. Demain, on revient et on parlera plus précisément de cette association Langage de femmes. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Camille Richir la remplace un peu cette semaine. Et Zoé Marie Roulier, c'est toujours notre stagiaire. Et chez nous aussi, il n'y a que des femmes. Mais on accepte quand même les auditeurs masculins.